Les passions de Camille avec Camille Chai.
Bonjour à tous et à toutes, ici Camille Chai, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a un spécial, oui, un spécial Île de la Madeleine. Qu'est-ce que ça fait plaisir! Je reçois deux madeliniennes, c'est le cas de le dire. La première s'appelle Virginie Poirier, elle est auteure, compositrice, interprète et comédienne. Elle vit avec le trouble du spectre de l'autisme et depuis plusieurs années, elle travaille sur une comédie musicale qui s'appelle « Entre deux mondes, quand la différence devient spectaculaire ». Mais je vous en dis pas plus parce qu'elle est là pour nous en parler ce matin. Et ma deuxième invitée s'appelle Marjolaine Bénard. Elle est, en fait, Marjolaine vit avec la rétinite pigmentaire. Elle est aussi évidemment aux îles de la Madeleine et elle anime des ateliers d'artisanat, oui, à l'Association des personnes handicapées des îles. Vous allez voir, une femme formidable aussi. En fait, il me tarde de vous les présenter. Et c'est tout de suite à Les passions de Camille. C'est maintenant le temps de recevoir ma première invitée, Virginie Poirier. Bonjour Virginie, comment tu vas?
Bonjour, ça va bien?
Ça nous fait plaisir
vous
de te recevoir.
Bien?
Oui, on t'entend très bien Virginie. J'allais dire, ça fait très plaisir de te recevoir parce que tu as un emploi du temps qui est très chargé.
Ça dépend des jours. Ben, c'est un peu comme tout le monde.
Très bien, très bien. Ben, tu vas nous en parler, évidemment. Mais j'aimerais d'abord que tu me parles de ta différence à toi.
OK.
Quel est ton handicap?
Je suis autiste léger, plus de type Asperger, sans DI. DI pour déficience intellectuelle. J'ai plein de... Maintenant, je sais plus comment on appelle ça, mais anciennement, on appelait ça comorbidité, quoique j'aime pas vraiment le mot. Mm-hmm. Mais c'est de la lenteur physique, donc psychomotrice. Ce qu'on appelle aussi hypoactivité et non hyper. On parle beaucoup souvent de l'hyperactivité. Quoi d'autre? En tout cas, la liste est longue. Troubles d'apprentissage au niveau académique, surtout au niveau des mathématiques, la logistique, l'inversement des chiffres, etc. Okay. De la sensibilité sensorielle, l'hypersensibilité sensorielle. En tout cas, je pourrais passer une heure là-dessus, mais il y a beaucoup trop de choses.
Ben, en fait,
c'est ça.
Oui, ouais. Mais c'est intéressant parce qu'on entend souvent que c'est très différent pour toute personne qui vit avec le trouble du spectre de l'autisme. Donc, j'aime bien que tu me parles justement en détail de ces choses-là pour que justement les personnes qui ne connaissent pas nécessairement l'autisme puissent en apprendre davantage. Donc, quand tu nous parles, par exemple, d'hypersensibilité sensorielle, c'est, j'imagine, autant au niveau physique, si par exemple quelqu'un pose la main sur ton bras, par exemple, est-ce que c'est à ce niveau-là que ça se manifeste?
Ça dépend. Là. Comme il y a plusieurs, dans à peu près tout, il y a différents degrés. Il faut aussi penser que, tu sais, je peux être hyper sensible dans des choses puis hyposensible dans d'autres. Règle générale, je vous dirais que les cinq sens sont hyper sollicités. Donc, ça crée vraiment, au niveau biologique, au niveau physique, un épuisement beaucoup plus marqué. Je m'épuise très facilement. J'ai besoin de m'isoler un peu. C'est surtout la lumière, les bruits, un peu comme le dit ma chanson, d'ailleurs, Funambule, c'est moi l'auteur de la chanson. Je reviendrai là-dessus plus tard.
Oui.
Mais c'est vraiment au niveau des odeurs, au niveau des textures, même au niveau du goût, au niveau de l'odorat, il y en a qui disent, je sais pas si vous savez, là, il y en a peut-être qui sont kinesthésistes aussi, là, oui. Qui ressentent des choses par différentes formes. Ou au niveau visuel, des choses comme ça. C'est pas toutes les personnes hypersensibles, d'après moi, qui sont kinesthésistes, puis en tout cas, peu importe.
Mm-hmm. Très bien.
Mais c'est ça, là. Peut-être dans mon cas, j'en fais un petit peu. Fait que c'est ça.
Et moi je suis curieuse, Virginie, j'ai envie de savoir, quand tu nous dis, par exemple, un goût qui peut être agréable, ce serait quoi pour toi, un goût que tu aimes?
Ben j'aime ce qui est sucré, ce qui est fruité, ce qui est croustillant, bien que j'aime pas au niveau sonore, c'est vraiment désagréable. Sinon, les textures, j'aime des choses qui sont douces, comme la peluche, des choses comme ça. Il y a certaines couleurs que j'ai besoin de voir, de ressentir. Il y a peut-être des formes géométriques qui sont apaisantes ou des mouvements qui sont apaisants ou t'sais, des choses comme ça. Certaines musiques qui sont apaisantes. Il y a, t'sais, comme moi, les hautes fréquences, j'ai de la misère, mais les basses fréquences, je les tolère. Fait que ça dépend vraiment du degré. Mais c'est ça, faut pas non plus voir ça comme un paria. Comme hypersensibilité, il y a autant ses bons que ses mauvais côtés, parce que moi, je vais appeler ça autrement. C'est peut-être un type d'intelligence sensorielle, émotionnelle. Ben c'est sûr, moi, j'ai un côté artistique développé, là, mais ce que je veux dire, c'est moi, je le vois plus comme oui, il y a beaucoup d'inconvénients, d'inconfort, puis tout ça, d'épuisement, mais il y a aussi, ça peut être un atout dans le milieu artistique, par exemple, pour être un petit peu plus alerte à ce qui nous entoure aussi.
Donc, c'est important de le voir d'une façon positive, malgré les choses qui peuvent être dérangeantes. Reste qu'au final, c'est un choix de perception.
Ben, tout est une question de perception, même, tu sais, en tout cas, on pourrait aller là-dedans longtemps, là. Comme, tu sais, j'ai justement une chanson là, qui s'appelle Perception, c'est pour ça que ça donne de même. En tout cas, c'est un autre sujet, mais ce que je sais, c'est que la perception humaine, dans son intégralité, tu sais, ce qui est pas bien pour nous est peut-être bien pour un autre, ce qu'on ressent, tout est différent. En tout cas, je sais pas, là.
Ah oui, non, mais franchement, c'est passionnant. Est-ce que c'est ce que on pourrait appeler la surcondition?
Je sais pas, en fait. Ben, je sais que la personne, l'humain, en général, cherche toujours à s'adapter à son environnement,
oui.
Règle générale. Mais c'est sûr que tu sais, on est dans une société un petit peu normative.
Oui.
Tu sais, on est dans une société un petit peu où on cherche quand même si, même à travers la différence, parce que je suis habituée des groupes, on cherche une certaine familiarité, on cherche une tribu, on cherche à s'apparenter à quelqu'un, à avoir une référence.
Tout à fait.
On cherche un sentiment d'appartenance. C'est ça que j'ai remarqué aussi entre nous, entre individus comme nous.
C'est vrai.
Puis je me rends compte que mais ça, c'est ma vision à moi, là. J'ai pas la réponse parfaite, là, infuse, là. Mais ce que j'ai pu constater, c'est que même entre nous, on se compare. C'est ça qui est plate un peu. On se compare. Autant c'est bénéfique, autant c'est nuisible de se comparer. Je pense que on est un petit peu comme, c'est pas une mauvaise chose d'être légèrement décalé puis d'avoir sa propre personnalité. En tout cas,
que c'est beau.
Je serai pas de longueur. Mais...
Ah oui, non, mais Virginie, je suis tellement d'accord avec toi. C'est tellement bien dit. D'ailleurs, pour toi, on comprend que c'est important d'aider les gens à accepter leurs différences. Parce que toi, tu l'as accepté, la tienne, n'est-ce pas?
Pas entièrement, parce qu'il y a toujours des phases où ce qu'on se remet en question, tu sais, faire de la rétrospection.
Mm-hmm.
Tu sais, moi, ben là, moi, je me passionne beaucoup pour la psychologie en passant, puis le développement personnel. Je sais que ça concerne monsieur, madame, tout le monde. Je sais que ces temps-ci, ma génération à moi est dans la modernisation des des anciennes valeurs qui se sont transformées avec les réseaux sociaux. Mais je pense que c'est pas inutile, pareil, de revenir aux sources parce que, tu sais, il y a beaucoup, on entend beaucoup parler de gens qui sont complètement décrochés. On entend beaucoup, de plus en plus, parler de santé mentale.
Oui.
Des gens au parcours plutôt lourd.
Mm-hmm.
Fait que je pense que c'est une manière, dans un sens, de se remémorer un peu là, c'est quoi que nos parents, nos grands-parents nous enseignaient, mais avec une touche un peu plus moderne. C'est 2.0 dans le sens un petit peu plus d'ouverture qu'il y avait dans le temps. C'est sur différents sujets, sur la diversité humaine, etc.
Donc, est-ce que tu penses que c'est une bonne époque en ce moment pour les personnes qui vivent avec une différence X? Aujourd'hui, avec toi, on parle en l'occurrence de l'autisme. Est-ce que tu penses que c'est une meilleure époque aujourd'hui pour vivre, j'ai envie de dire, en harmonie avec les autres?
Oui, puis non, parce que je pense qu'il y a encore, dans toute époque, il y a ses bons et ses mauvais côtés. Il y aura toujours des gens fermés d'esprit, peu importe le sujet. Oui, il y a toujours aussi des préférences. On peut pas toucher à tout le monde nécessairement. Moi, je pense oui et non. Il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau des conditions plutôt de travail. Tu sais, les personnes qui sont autonomes ou semi-autonomes, les hébergements, tu sais, ça commence, mais ça fait juste quelques années. Comme je donnais un exemple, là, je sais pas, l'article, s'il est récent, mais il y avait, j'entendais à la radio tout à l'heure, un parent d'enfants handicapés. Elle, ses deux garçons sont lourdement, en plus d'être autistes, ils ont probablement d'autres problématiques.
Mm-hmm.
C'est une personnalité quand même connue qui s'appelle Guylaine Gay,
oui.
Qui parlait à la radio.
Mm-hmm.
Puis à Clovis, qui est à la radio de CFIM aux îles. Je sais pas si c'est récent, là. Je fais juste vous dire, j'ai écouté ça à la radio tout à l'heure. Puis, c'est ça, il parlait de la fondation Véro et Louis. Louis et Véro, je pense,
qui est
un organisme de centre d'hébergement pour les personnes autistes avec ou sans DI semi-autonome, je pense.
Mm-hmm.
Puis, c'est ça, là. C'est un exemple parmi tant d'autres. Là. Je sais qu'ici, à l'association, il y a des services de répit pour les personnes handicapées. Il y a l'association des personnes handicapées des îles qui offre plusieurs services de loisirs.
Et oui, d'ailleurs.
Il y a plusieurs choses. La liste est longue.
Tout à fait, mais tant mieux, c'est un point positif, ça prouve qu'on avance dans ce domaine-là. Tu nous parles de l'Association des îles, on va en reparler tout à l'heure parce que c'est quand même, ça occupe une belle place dans ta vie. Donc, on en parle après, je propose qu'on ait écouté ta chanson, et quand je dis ta chanson, c'est parce que c'est toi qui l'as écrite, on en reparle tout de suite après.
À distance, tout le monde autour me tourne le dos. Je vis dans ma bulle et les autres me bousculent. J'ai l'air ridicule pour tous ceux qui sont normaux. La lumière et les bruits, tout ceci m'étourdit. Je me sens parfois perdu. Si les gens acceptaient tout ce que je suis, car je ne l'ai pas voulu. Plane le mystère au cœur de mon univers, funambule dans chaque jour pour relever un défi. Je veux être acceptée dans la communauté, dans l'intelligence du cœur. Peu importe vos souffrances, vivez le bonheur. Je cherche l'humanité. Funambule dans ma bulle, où plane le mystère au cœur de mon univers. Funambule dans ma bulle, à l'intérieur de ce monde que je vis à la seconde.
C'était la chanson Funambule de Virginie Poirier. Virginie, franchement, c'est magnifique comme chanson.
Oui, merci.
Oh, ah oui, bravo, bravo. C'est tellement doux, c'est apaisant, ça nous porte. La notion de la bulle, est-ce que tu peux nous en parler?
Oui, ben là, excusez-moi, là, j'étais un petit peu en surcharge parce que vous autres, ben vous êtes habitués, vous avez, puis j'imagine que vos choses sont insonorisées, mais moi, là, c'était vraiment là, le son, là, tu sais, comme l'arrière-son là, du micro, là, j'entendais tout. Mmh. Fait que j'ai eu un frisson. Je ne faisais pas le même frisson. C'était plus le son. Mais non, oui, c'est une belle chanson. Ben moi, je suis habituée de la chanter, donc j'ai comme, je sais pas comment vous dire. Mais oui, dans le fond, je peux vous en parler. La chanson Funambule, je l'avais écrite pour un personnage, pour un autre comédie musicale. C'était inattendu en fait. C'est au fur et à mesure que moi et José, on a travaillé pour l'élaboration de l'histoire, des personnages, etc. Mm-hmm. Moi, dans la même année, il y avait dans le cadre des rubriques d'Enfant Soleil, Opération Enfant Soleil, il y avait un jeune garçon autiste non-verbal, je pense, qui était le fils d'un docteur qu'on a ici aux îles, et il avait été pris comme représentant pour Enfant Soleil. Puis je sais que pas longtemps après, c'était le mois de l'autisme, qui est le mois d'avril. Oui. Et je sais pas, là, c'est vraiment incongru la façon que ça s'est passé quand j'ai écrit cette chanson-là. Et c'est ça, là. Moi, déjà en partant, j'avais plein de brouillons, tout ça. Puis là, José, elle s'est dit, ah tiens, j'ai amené une chanson que je travaillais sur un autre projet. Puis elle a dit, pourquoi pas, on pourrait pas comme retransformer le spectacle, en tout cas l'histoire d'Entre deux mondes, puis le centrer sur un personnage autiste. Puis elle trouvait que la description du personnage collait bien. Et de fil en aiguille, au fur et à mesure de nos échanges, on a pu constater qu'il y avait peut-être un potentiel, puis peut-être pas changer l'histoire au complet, mais juste restructurer certaines choses, certains passages. Et finalement, c'est là qu'est né notre personnage principal, Sam Malchance, Samuel Meyer, qu'on appelle Sam Malchance, parce qu'il y a un jeu de mots avec ça. Pour l'instant, on est encore dans les grosses répétitions. Enfin bref, Je sais que cette chanson-là est sur mon album Virgie Artiste Autiste, que je vais pouvoir parler un peu plus en détail si on a le temps un peu plus tard.
Certainement, mais tu peux même nous en parler maintenant.
OK, ben dans le fond, c'est ça. Nous autres, ce qu'on a fait, c'est que moi, j'avais en 2013, entre mes pratiques pour une comédie musicale dans laquelle je faisais partie et un concours amateur aux îles qui s'appelait La Portée Acadienne. Moi, j'étais dans les semi-finalistes, je pense. J'ai pas gagné le concours cette année-là. Par contre, 2 ans plus tard, j'ai sorti mon CD La Journée de la Femme en 2015. Nous autres, ben c'est ça, là, moi puis ma mère, on avait eu l'idée de faire une espèce de bande sonore. Au début, c'était vraiment pour entre deux mondes. Après ça, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas les contacts, l'argent, tu sais, le budget, les gens autour nécessairement. Donc, on a fait ça plus petit. Et pendant à peu près un mois et demi, je m'étais mise à écrire non-stop des titres de chansons accrocheuses avec une musique accrocheuse. Je me suis beaucoup inspirée aussi de l'univers de Marimé, d'ailleurs, pour les chansons. Et ce que j'ai fait, c'est j'ai mis beaucoup de ma couleur. Dans le temps, ça s'appelait les studios MPN, qui aujourd'hui n'existent plus, avec Jean-Yves Turbide et Stéphane Lapierre, qui, eux autres, s'étaient mis dans la production de ce CD-là. C'est des éponymes, c'est tous mes compos à moi, mes compositions. C'était de l'argent qu'on ramassait pour Entre deux mondes. C'est comme dans les premiers jets de financement, de moyens financiers. Et il y a beaucoup d'organismes, il y a beaucoup de gens qui nous ont aidés. D'ailleurs, mes chansons, ça a l'air, moi j'écoute plus la radio, mais ça a l'air qu'ils passent quasiment 2 fois par jour, si c'est pas plus à la radio.
Wow.
Même si c'est même je vais dire en riant, c'est passé de mode là, parce qu'on fait plus de CD aujourd'hui. Tout est sur Spotify.
Oui.
Mais ça fait rien. Je pense que ça marque les gens.
Oui.
Puis c'est le fun quand même. Ça fait différent du registre habituel, traditionnel. C'est beaucoup de la musique trad aux îles, la musique madelinienne. Mais là, il y a de plus en plus de variétés aussi. Fait que puis c'est un sujet quand même intéressant. Fait que c'est ça.
Mais ce qui est beau, c'est que tu transmets des messages qui sont très beau et qui non seulement aide à sensibiliser les gens, mais comme on l'a dit tout à l'heure, à les aider à être mieux dans leur peau et mettre leurs différences plus de l'avant. Une autre façon de le faire aussi, c'est tu nous as parlé de ta mère, donc qui s'appelle Carole Poirier, qui est la directrice de l'Association des personnes handicapées des îles. Toi, tu y fais beaucoup de bénévolat, cette association?
Ben en fait un petit peu moins qu'avant parce que bon tu sais je sais que la clientèle c'est majoritairement de l'ADI. Je sais qu'il y a de la déficience physique, visuelle, ben c'est plus une minorité, il y a de la trisomie 21, il y a de l'autisme. Moi, dans le fond, c'est que c'est surtout des personnes âgées, quoique je les adore, je les aime beaucoup. Mais c'est ça. Là, tu sais, j'avais envie de faire un peu autre chose. Puis j'étais beaucoup dans mes projets aussi. J'ai fait des travails, des petits jobs ici et là. J'avais moins de temps, enfin. Enfin, bref, j'avais moins de temps. Puis là, ben, depuis l'année passée, depuis l'été de l'année passée, on a commencé un petit groupe de club social. On l'avait déjà fait pour un groupe mixte de jeunes adultes autistes sans DI d'Asperger là, qui s'appelait Aspi Hill. Nous autres, on était autant de gars que de filles d'un certain âge. Mais bon, faute de budget, on n'a pas pu, puis de participants également, on n'a pas pu refaire l'expérience. Par contre, là, cette année, on a fait un groupe un peu plus... c'est des jeunes femmes de 18 à 35 ans, quoique la plus jeune a 12 ans, c'est vraiment une exception. Et elle fait un travail exceptionnel en passant.
J'en doute pas.
Puis elle me donne aussi un coup de main à moi et à l'animatrice, parce que moi, à fin mes heures, je fais un petit peu plus de temps, de l'overtime, parce que ça me tient à cœur. Fait que dans le fond, c'est un groupe de jeunes filles, avec ou sans DI, autistes, avec soit déficience physique et ou santé mentale. Notre but, c'est de démystifier la différence au féminin, d'ailleurs, qui est notre slogan, qui a tout été pensé. On a fait un concerto avec les filles. C'est un peu comme un café rencontre où on parle de sujets féminins. On essaie de développer la féminité, la sensualité, l'autonomie, la créativité des jeunes femmes handicapées. Puis notre mission, c'est, ben là, on est vraiment aux abutiements, je sais pas comment appeler ça. On est vraiment, c'est très embryonnaire. On est en train de travailler. Moi, de ma part personnelle, j'ai mis beaucoup de temps et d'amour sur le logo. Après consultation des filles, bien entendu, on a choisi le nom qui s'appelle Girly Happy.
Qui est un très beau nom, qui est très positif. Je te coupe, Virginie, je suis désolée.
C'est un jeu de mots.
Magnifique. Mais en fait, comme il nous reste à peine quelques secondes, Virginie, je veux absolument te remercier, mais je veux demander, parce que si les personnes qui t'entendent veulent justement avoir des informations sur tout ce que tu fais, tous tes projets, est-ce qu'il y a une page Facebook ou un site Internet sur lequel on peut aller?
Je pense que sur l'Association des personnes handicapées des îles, il y a une page Facebook avec peut-être une petite rubrique. Je sais pas là jusqu'à quel point pour le Girly Happy, mais je sais que pour me suivre, il y a la page Entre deux mondes worddress.ca qui est un blog. Il y a également la page Facebook. Vous pouvez avoir également accès à Instagram. Moi, c'est Virgie Pink sur Instagram. J'ai Virginie Poirier, ma chaîne YouTube, quoique il n'y a pas grand contenu pour l'instant. Sinon, j'ai la bulle de Virgie 2.0.
On a beaucoup de choix pour venir te suivre sur Internet et les réseaux sociaux. Merci infiniment, puis, Virginie Poirier. C'était un plaisir de découvrir ton univers. Merci infiniment.
J'ai oublié de dire sur la page Virginie, c'est vrai, artiste autiste, pour suivre un petit peu plus au niveau de mon CD.
Eh bien,
oui, c'est vrai, j'ai oublié.
Ben, c'est magnifique, c'est noté, aucun souci. Merci beaucoup, Virginie.
OK, ça fait plaisir.
Vous écoutez Les Passions de Camille avec Camille Chai.
Et oui, Camille Chai, je suis toujours avec vous et j'ai le plaisir d'accueillir ma deuxième invitée madelinienne qui s'appelle Marjolaine Bénard. Elle a 65 ans, elle vit seule et elle vit avec la rétinite pigmentaire. Vous avez entendu, j'ai eu une hésitation. En fait, je me dis, il y a tellement de choses à dire à son sujet, mais le mieux, c'est de la laisser parler elle-même parce qu'elle a un magnifique parcours de vie. Bonjour Marjolaine.
Bonjour Camille.
Vous allez bien?
Oui, toi?
Oui, bien, merci. Alors, Marjolaine, on a envie d'en apprendre plus sur votre vie parce que vous avez dit, oui, j'ai 65 ans, j'ai un long parcours. Ben, alors, parlez-nous-en.
Parler, oui.
Ben oui, certainement.
Alors, les présentations sont faites. Je viens des îles, évidemment, avec ma belle accent.
Oui.
C'est ça, j'ai un parcours quand même assez long, mais je vais résumer ça, les étapes les plus importantes. Mm-hmm. Alors, je suis atteinte d'une rétinite pigmentaire avec un syndrome d'Usher, U-S-H-E-R, ce qui représente aussi un problème d'audition. Alors, mon handicap est double au niveau de la vision et au niveau de l'audition. J'ai vécu une enfance très heureuse dans une famille où on sentait bien l'amour, le partage, l'entraide entre les frères et les sœurs. J'ai été élevée comme tous les autres membres de la famille, non surprotégée, et j'ai appris à avancer par moi-même. À 18 ans, j'ai quitté mon île pour aller aux études. Un peu tout le monde fait ça ici, ceux qui veulent aller aux études. À ce moment-là, il fallait sortir des îles. Alors, je suis allée étudier pour une période de 5 ans à l'Université de Sherbrooke et j'ai obtenu mon baccalauréat en enseignement. J'ai enseigné, j'ai travaillé un peu dans l'enseignement des années 80 à 92. Et en 92, la vision et l'audition se fait ressentir moins bon, alors moins bonne qu'avant. Alors, je consulte et on a procédé à l'ablation d'un cataracte. Alors, j'ai été un an sans mettre les pieds à l'école. Oui. Et puis, je suis retournée consulter au bout d'un an. Et effectivement, les nouvelles n'étaient pas très bonnes parce que la maladie sous la cataracte était plus importante que la cataracte elle-même. Mmh. Alors, à 38 ans, on reçoit un verdict, il n'y a plus rien à faire. On peut aller, on ne dit pas qu'on va aller à la cécité, mais on peut y aller. Alors, avec un verdict comme ça et dans mon tempérament, je suis une battante, une positive. J'ai une famille, deux enfants à 38 ans. Alors, qu'est-ce que je décide? Est-ce que j'abandonne ou je continue? Évidemment, avec mon caractère, j'ai décidé de continuer.
Et oui.
Et puis, est arrivé plein de petites aventures. Je me suis préparée à toute éventualité. Alors, j'ai appris en 92, je pense, le braille, le premier cours intégral, l'abrégé, au cas où je deviendrais aveugle. Me préparer de cette façon-là. Ensuite, en 95, j'ai créé ma propre fondation à perte de vue pour me permettre d'aller à Moscou recevoir des traitements. Ma famille, mes amis et moi avions ramassé beaucoup de sous et je suis allée pendant 9 années consécutives recevoir des traitements. Ça consistait à avoir des piqûres dans les yeux tous les jours, 10 jours. Je n'étais pas hospitalisée, ça se passait en clinique.
Ah oui.
Et j'avais un seul objectif à ce moment-là, c'était je ne rêvais pas en couleur, je savais bien que je ne retrouverais pas la vision. Mm. Mon objectif était d'avoir une stabilité pour 10 ans.
Oui, parce que ça perd, ça s'en va un petit peu progressivement.
Oui, c'est ça. Mais oui. Tu vois, à ce moment-là, j'avais juste 5 degrés et mon objectif était d'aller pendant une dizaine d'années, mais finalement, je suis allée 9 fois.
Oui.
Et j'ai, je pense, apprécié le voyage. J'en ai profité. J'ai vu à chaque année la place rouge, visiter, acheter beaucoup de petits souvenirs, me promener en bateau sur la Moscova,
oui.
Plein de choses intéressantes. Mais j'ai dû mettre fin en 2004. Au fond, j'avais comme programmé 10 ans, mais j'en ai fait 9. En 2004, là, la tension, le terroriste augmentait beaucoup à Moscou.
Mm-hmm.
Et je pense que j'ai eu plus peur de ça que de ma vision. Fait que j'ai décidé de mettre fin en 2004 d'aller à Moscou. Pendant les années, pendant toutes les années avant 2004, de 95 à 2004, j'ai travaillé pour l'Association des personnes handicapées visuelles de la Gaspésie et des Îles. J'avais un poste comme coordonnatrice. Je réunissais les gens qui avaient des problèmes de vision, puis on essayait de passer au travers en brisant l'isolement, en faisant des rencontres, des cafés-rencontres.
Est-ce que vous avez vu beaucoup de personnes qui venaient de perdre la vue ou qui tout d'un coup se retrouvaient dans...
Oui, quand même. Il y avait une quinzaine de personnes, à peu près toutes du même âge que moi j'avais, qui avaient des problèmes de vision. Il y avait aussi des personnes âgées. On essayait de brider l'isolement, leur offrir des trucs, des informations sur tous les outils adaptés qui existent pour nous aider à faire la cuisine, pour nous aider à lire, à écrire, à être adaptés à l'informatique, tout ça, les trucs. Fait que j'ai fait ça pendant, c'est ça, jusqu'en 2008. Jusqu'en 2008, oui. Et en 2006, je me suis orientée vers les chiens Mira.
Mm-hmm.
Alors, j'ai eu mon premier chien guide en 2008 et je viens de lâcher mon troisième en janvier. Je l'ai placé à la retraite. Il était dû pour aller à la retraite. Et j'ai décidé que j'en finissais avec les chiens. Ça fait quand même 15 ans que j'avais un chien guide. Maintenant, j'ai décidé de continuer à la canne blanche.
Pourquoi avoir fait ce choix?
Bonne question. En vieillissant, je pense que avoir ramassé 15 ans de poils,
c'est vrai, hein?
un peu tanné. Alors, j'ai décidé de continuer à la canne blanche. C'est beaucoup de responsabilité, avoir un chien, se lever tôt, aller le faire marcher, s'en occuper. Mais ça a été un grand bonheur dans ma vie. Mon premier, en 2006, après toutes ces années-là, Mira, pour moi, il n'y a pas de mots assez grands pour décrire ce que j'ai vécu en arrivant là pour avoir mon premier chien. C'est quelque chose. On vit en équipe, 8 personnes, chacun nos chambres, chacun nos chiens. On voyage en camion avec les chiens. Faut apprendre à respecter tout le monde.
C'est une belle aventure.
Mais, oui.
Comment s'appelait votre premier chien?
Manique, ça a été un bonheur. J'ai marché 35-40 kilomètres par semaine avec elle.
Wow.
Elle était ma complice, ma compagne. Elle était mes yeux. Elle me regardait toujours. Elle n'avait que deux yeux pour moi. Ça a été ma première, une très belle expérience. Et mes deux autres aussi. Je viens tout juste là, de terminer avec Napoléon, cette fois-ci. Je viens tout juste de terminer en janvier. Mm. Par contre, je l'ai mis à la retraite dans ma famille, chez mon fils.
Ah, c'est une bonne idée.
Ah oui, avec les deux petits-enfants, ils l'adorent. Et je peux quand même le voir à l'occasion, fait que c'est bien.
Parce que ça doit être quelque chose de se défaire des chiens quand, bon, ils vont à la retraite. Comme vous dites, c'est tellement un travail d'équipe.
Oui, mais moi, c'était dans ma vision de quand je l'ai utilisé 7-8 ans, il donnait la possibilité de vivre une vie de chien parce que la vie de chien, Mira, les chiens n'ont pas le droit de jouer, n'ont pas le droit de bouffer de la nourriture autre que leur nourriture. C'est quand même sévère.
Mais est-ce que vous dites qu'ils n'ont pas le droit de jouer? Est-ce que vous savez si aujourd'hui Napoléon a appris à jouer chez votre fils?
Oui, exactement. Oui, lui, là, avec moi, il allait marcher, je pouvais jouer avec lui, mais jamais lancer de balle, parce que si je m'en vais marcher, puis qu'il y a une balle qui traverse la rue, il ne faut pas qu'il soit attiré par la balle.
Mince alors, c'est vrai.
On ne fait pas ça, tu sais. Alors, avec mon fils, avec mes petits-enfants, il a appris à jouer, à bouffer les restes
de
tombataires par les enfants. oui, vraiment, là, c'est ta vie. Puis moi, c'est important. Je trouve que quand ils ont travaillé 8 ans, 10 ans, il est temps qu'ils prennent leur retraite.
Mais oui, ils le méritent. Et comment ils vous manifestent sa joie quand vous arrivez chez votre fils et qu'il vous reconnaît?
Oh, absolument. Et je m'en suis départie en janvier et j'ai voulu attendre un mois et demi, presque deux mois avant de le revoir. Et ça a été une belle surprise. Il me suivait partout. Il est venu s'asseoir à mes pieds. Mais quand ça a été le temps de partir, c'est la petite fille qui l'a appelé, elle a mis son collier, puis il est reparti comme si de rien n'était.
Tout se passe bien.
Je le sentais heureux. J'étais contente. Je le sentais heureux. Ouais.
Que c'est beau. Et ce qui rend heureux aussi, à part les chiens, hein, c'est aussi la musique. Qu'est-ce que vous en dites si on passe à une petite pause musicale pour écouter votre choix musical et on en rediscute après?
Parfait. Merci.
Partîmes du Havre et port de Saint-Malo avec les dix de navires du port d'environ 60 tonneaux chacun équipés les deux, 61 hommes. Le 20e jour d'avril, au dit temps, 1534, et avec bon temps, vîmes à Terre-Neuve, le 10e jour de mai. On aime à voyager, la mer a bien grandi, Québec est rempli de voiles. Depuis que Cartier monta dans la nuit, 48 degrés et des étoiles, jusqu'à l'île des oiseaux, laquelle île était tout avironnée, les circuits d'un banc de glace rompue et des parties par pièce. Nonobstant, le Diban, nos barques furent à la dite île pour avoir des oiseaux. Dès qu'il y a si grand nombre, chose incréable qui ne la voit. On aime à voyager, la mer a bien grandi, Québec est rempli de voiles. Depuis que Cartier nota dans la nuit, 48 degrés et des étoiles. Assemblément du Diavre de blanc sablon, vîmes entre Terre-Neuve et Bretagne, eûmes trois jours continués de grandes tourmentes de vent d'haut, et depuis eûmes tant agrées, tellement qu'arrivâmes au havre de Saint-Malo, dont étions partis le 5 de septembre au dit temps. On aime à voyager, la mer a bien grandi, Québec est rempli de voiles. Depuis que Cartier nota dans la nuit, 48 degrés et des étoiles. On aime à voyager, la mer a bien grandi, Québec est rempli de voiles. Depuis que Cartier nota dans la nuit, 48 degrés et des étoiles.
On est bercé par cette chanson qui a pour titre 48 degrés et des étoiles du chanteur.
Est-ce que vous la connaissiez?
Non. Marjolaine, c'est une découverte. Vous nous faites découvrir ce chanteur qui s'appelle George Langford, qui est originaire des îles de la Madeleine.
Ben oui.
Et donc, c'est une chanson que vous aimez particulièrement. Est-ce que c'est une chanson qui vous berce et qui vous fait voir les étoiles?
Oui, vraiment, je l'adore. Oui. C'est une berceuse, oui, pour moi, oui.
Et c'est ce qui fait un peu, entre autres, aussi que vous êtes fière d'être une madelinienne.
Oui. Très fière d'être madelinienne.
Pourquoi?
Je pense que chacun peut dire la même chose. D'abord parce qu'on y vit. On est né là. C'est une petite île où moi, ça représente le calme, la tranquillité, les grands vents, les grands espaces, la nature. Je me sens bien, je me sens calme chez moi, sur mon île, oui.
Ça donne envie de venir vous visiter, Marjolaine.
Oh oui, absolument. Puis je vais vous accueillir.
Bon, écoutez, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde.
Parfait, prévenez-moi, puis on y verra.
Très bien. Mais vous savez quoi, quand vous parlez d'accueillir les gens, je pense que c'est vraiment une qualité, c'est quelque chose que vous avez de très spontané et naturel en vous. Vous avez parlé de votre famille, vos enfants, vos petits-enfants, mais vous êtes aussi impliqué auprès de l'Association des personnes handicapées des îles. Qu'est-ce que vous y faites là-bas?
C'est ça, c'est un atelier depuis 5-6 ans, un atelier de couture et d'artisanat. Je trouve que c'est de bien grands mots pour une personne non-voyante et deux équipes de quatre filles avec déficience intellectuelle. Mais quand même, on touche à la couture. Je leur apprends à manier les ciseaux, à découper certains tissus, à coudre des boutons, à bricoler, à faire des cartes de souhait de tout moment avec de la laine, des boutons, de la toile, tous les articles qui sont dans la couture. Et puis, avec deux bénévoles, moi, je réussis à fabriquer des tapis de plage.
Oui, qui sont magnifiques. Hein?
Ah oui, vous les avez vus.
Oui, sur la page Facebook de l'association. J'invite ceux qui nous écoutent à aller jeter un coup d'œil, d'ailleurs.
OK. À faire des tapis, des petites choses, des tapis de plage, des sacs d'épicerie très résistants, toile, des petits sacs à fruits et légumes, des petites choses simples. Avec l'aide de bénévoles, ça va super bien. Puis c'est une passion chez moi aussi. J'ai comme trois grandes passions, la cuisine, la couture, puis la lecture. Ça fait partie de tous les jours.
Mais oui, et avant de passer à vos autres passions, pour qu'on comprenne, donc vous dites qu'il y a des bénévoles qui vous aident à animer ces ateliers, mais vous, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de votre vision?
Ma vision est, je dirais, presque totalement aveugle. J'ai à peu près 3 degrés de vision. On sait que vous voyez d'un coin à l'autre, vous avez 180 degrés. Moi, j'ai à peu près 3 degrés.
D'accord.
Mais c'est ça. Je fonctionne avec les contrastes un peu, mais d'année en année, c'est sûr que ça diminue tout le temps un peu. Mais j'arrive quand même à voir les puits de lumière, les personnes, tout ce qui bouge. Il n'y a pas de précision, il n'y a pas de couleur. C'est foncé ou c'est pâle, je peux voir ça.
Vous voyez un peu comme quand on dit, quand on voit, pour parler des degrés, comme si on regardait à l'intérieur d'une paille.
Exactement. Très, très petit et avec les années, très flou aussi. Au départ, c'est une vision qui rétrécit de par les côtés et qui va jusqu'à peu près la grandeur d'une ouverture de paille. Mais quand c'est clair, ça va bien, mais quand c'est flou, là, c'est un peu moins bien.
Évidemment.
Mais je vis toute seule. Je fais la cuisine, je fais un peu de couture, je m'entretiens, je fais marcher.
Mais vous êtes impressionnante parce que vous nous parlez, en fait, on oublie hein, que vous êtes presque aveugle parce que en fait, ça nous prouve que tout est possible. Hein, au final, quand on a la volonté, en fait, volonté, mais quand on dit que le mot-clé et le titre de l'émission en parle, quand c'est une passion, il n'y a rien qui nous arrête.
Oui, c'est ça, absolument. Puis moi, j'ai fait, en plus, en 2008, je suis allée étudier en massothérapie, au Centre de massothérapie de Québec. Alors, j'ai pratiqué une douzaine d'années aussi la massothérapie. J'ai pris ma retraite de ça en 2019, à l'été. Fait que là, maintenant, là, je travaille 3 jours semaine avec les handicapés intellectuel là, des îles.
Magnifique.
C'est mon dernier travail, d'après moi.
Oui, parce que de toute façon, vous avez tellement de belles autres activités à faire à côté. Vous nous avez parlé de la cuisine. Comment vous faites? Vous venez de nous dire que vous utilisez les contrastes. Quels sont les autres trucs que vous utilisez pour pouvoir faire la cuisine?
Ben, faut s'équiper aussi. Comment je pourrais t'expliquer? Bon, une tasse à mesurer qui a tous les degrés, moi, je peux pas utiliser ça. Il faut que j'aie les tasses à mesurer, la une tasse, la trois quarts de tasse, la deux tiers de tasse, la demi-tasse, le quart et le un tiers. Ils sont tous empilés une par une et je travaille avec ça. Ça fait que déjà là, je peux avoir mes mesures exactes. Je travaille aussi avec beaucoup de contrastes. Donc, si je travaille avec une pâte blanche, je me mets dans un plateau noir. Si je travaille une pâte foncée ou des choses qui sont plus foncées, je peux travailler avec un plateau blanc. Mmh. Ça m'aide à avoir des contrastes. Je pense que le fait que je faisais ça avant, c'est comme la couture. Je cousais avant, je faisais la cuisine avant, j'ai gardé les techniques. Alors, même si je vois pas, avec mes doigts, je suis quand même capable de sentir ou d'évaluer la pâte ou la texture.
Oui, tous les objets avec lesquels vous
absolument,
travaillez.
Absolument.
Mais vous êtes tellement discipliné et ordonné, on dirait.
Ordonné, oui. Mais je pense que j'ai pas de mérite. Où on m'a donné ça à la naissance pour justement affronter dans la vie. Oui, je suis quelqu'un de très ordonné. Une chance, parce que je ne retrouverai pas mes choses.
Non, effectivement.
Ouais.
J'ai envie absolument que vous nous parliez de la relation que vous avez avec vos petits-enfants, parce que vous êtes une grand-mère remplie d'amour, ça s'entend. Mais vous m'avez décrit, on s'est parlé avant l'entrevue, vous m'avez décrit, en fait, les moments où, par exemple, votre petite fille vous a offert une carte qu'elle vous a fabriquée pour vous.
Que mon petit-fils...
Que votre petit-fils.
J'ai pas compris.
Oui, votre petit-fils vous avait offert une carte. Je sais pas si c'était pour votre anniversaire ou pour...
C'est ma petite-fille.
Oui.
OK, c'est ma petite-fille. J'ai une relation très privilégiée. Ma petite-fille, elle a 8 ans. Puis, c'est ça, dernièrement, c'était mon anniversaire. Ça fait qu'elle m'a fait une carte de souhait. Mais elle sait très bien qu'il faut qu'elle explique ce qu'elle a fait, ce qu'elle a écrit, ce qu'elle a dit. Et là, elle m'a expliqué qu'elle avait dessiné mamie. Mmh. Ensuite, elle avait mis un plus. Et à côté, elle avait dessiné elle, Alexis, et elle avait mis égal et elle avait fait un gros cœur. Fait que pour moi, ça a été oh, c'est beau. J'ai dit bon, ben je vais garder ça pour toujours. Fait qu'elle était fière de ça. J'ai une bonne relation avec mes enfants. Mm-hmm. Et les petits-enfants aussi. Et j'ai un petit-fils de 5 ans. Qui lui aussi va vivre avec une différence. Et le fait qu'il ait une différence, je pense que je l'aime encore davantage. Il a juste 5 ans et je serai toujours là pour lui s'il a besoin d'une oreille, s'il a besoin d'un 20$, s'il a besoin de quelque chose. Quand ils seront plus vieux,
ben oui.
Je suis toujours là pour l'aider. Ouais.
Mais ce qui est beau, c'est que dans votre famille, il y a l'amour qui est omniprésent, mais les valeurs aussi de l'acceptation des différences.
Oui,
c'est une des valeurs, c'est les valeurs que vous leur transmettez, hein, autant à vos enfants que vos petits-enfants.
Oui, absolument. Et c'est la recette miracle. Tu t'acceptes pas ta différence, tu peux pas fonctionner normalement. En acceptant ta différence, il y en a plus. T'es comme les autres. Tu trouves des outils, tu trouves des moyens, tu trouves et tu deviens finalement, t'oublies ta différence finalement.
Oui, et souvent c'est même les autres, hein, qui nous la rappellent.
Oui. il faut pas te laisser imposer ça.
Vous avez bien raison. En tout cas, vous l'incarnez merveilleusement bien. vous êtes d'accord hein, pour dire que la vie vaut la peine d'être vécue, Marjolaine?
Oh oui, absolument, absolument. Oui, je te l'ai dit cette semaine.
Oui.
La vie vaut vraiment la peine d'être vécue. Puis je dirais à ceux qui sont pas sûrs de passer au travers parce qu'ils ont un handicap ou une différence, c'est ça. Il faut y croire, il faut être convaincu que la vie vaut vraiment la peine d'être vécue. Qu'il y a plein de petits bonheurs, de petits plaisirs qu'on peut s'offrir à tout moment.
Oh, vous avez tellement raison. Merci infiniment, Marjolaine Bénard, de nous avoir raconté votre belle histoire.
Ben, ça m'a fait plaisir. Puis, n'oubliez pas que si vous venez aux îles, vous venez me voir.
Parfait, c'est un rendez-vous.
Parfait.
Au plaisir, merci.
Infiniment. Bye-bye.
Bye-bye. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été avec nous. Je vous invite à aller sur le site canalm.visevoix.com pour réécouter les émissions ou sur les plateformes de diffusion de balado. Merci infiniment à toute mon équipe, Mathieu Tessier qui est à la mise en onde, Claire Guérin, ma recherchiste, Jean-Sébastien Laliberté à l'habillage sonore. Et je vous dis à la semaine prochaine!